Bon, Alice, bon marché à la drogue, au dopant, à l'alcool?
Non!
Non, non, bien sûr, c'était juste une question.
Alors, il y a un autre effet, qui est l'effet de...
Radio Campus 88.3!
Brandy, Camélia,
Dorian,
Elia,
Fatouata,
Enzo,
Mariama,
Noah,
Nesrine,
Robespierre,
Angela,
à la jeunesse du pro!
En direct du festival d'Avignon.
Les micros. Les micros.
Les micros.
Et les micros, ils sont acquis.
Ils sont acquis.
Ils sont acquis.
Ils sont à nous. À qui a-t-il acquis ? À nous, à nous, à nous. À la jeunesse des micros.
Bonjour mesdames, messieurs et à tous ceux au milieu. Bienvenue à la deuxième émission à la jeunesse les micros. Aujourd'hui, on parle d'écologie, le ciel brûle. Je vois certains faire des grimaces, mais je vous promets, ça va aller. Les générations précédentes voyaient le monde brûler et ont eu le luxe de regarder ailleurs et de la réflexion. La nôtre, la mienne, elle ne l'a plus. Les flammes sont déjà à nos pieds et nous consument le corps et l'esprit. Cette génération, caractérisée par une soif infinie de réponses et d'actions directes, voire radicales, quelles réponses on peut donner à ces nombreuses peurs et inquiétudes concernant l'écologie? Et pour ce faire, nous vous avons concocté un programme de qualité.
Merci beaucoup, Mariama. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre fantastique émission « À la jeunesse, les micros ». Au sommaire aujourd'hui, nous allons recevoir Émilie Rousset, metteuse en scène, Isel Beaumauer de l'association Latitude, puis Caroline Barnot et Stéphane Caegui, les curateurs du spectacle Paysages partagés qui se joue actuellement au Festival d'Avignon. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Hortense Archambault, directrice de la MC 93, et Simon Janich de l'association avignonnaise Le Fenu à Vapeur. Nous appellerons ensuite Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France, une ONG qui a pour objectif de lutter contre les inégalités en France. Il y aura aussi des reportages, de la lecture, de la musique. Et nous conclurons notre émission par un appel au Cameroun avec Lionel Manga, écrivain. Pour cette émission, nous nous sommes demandé si le partage pouvait être la réponse à un monde qui brûle. Et donc, qu'est-ce que c'est que le partage? Un mot qui veut à la fois tout dire et rien dire. Quel est le sens que vous lui donnez? Nous avons posé la question aux Avignonnais. On écoute.
Le partage,
la famille.
C'est lié à l'écoute.
Pour moi, c'est donner une partie de ce qu'on a aux autres.
Être raisonnable.
La possibilité de se rencontrer tous et de pouvoir assister ensemble à un spectacle, faire communauté le temps d'une soirée.
C'est une évidence en soi de dire quand on fait, on redistribue. C'est redistribuer la lumière, c'est redistribuer le savoir, ou en tout cas de faire en sorte que les histoires qui ont été avant ne soient pas tues, mais pas perdre de vue l'amour dans tout ça.
Horizontalité.
C'est ce qu'on devrait tous devoir, le partage. Mais je trouve qu'on est très égoïste.
Ce sera la seule façon qu'on aura de se sortir de cette ornière de l'effondrement. Il nous faut être solidaires, il nous faut être aidants, entre-aidants.
Donner de ce qu'on a aux autres.
Ne pas faire de différence.
Le partage, c'est juste pour moi la meilleure des choses.
Je laisse la parole à Camélia, Dorian et Fatou. Les micros sont à vous.
Bonjour Émilie, bonjour Iseult. Émilie Rousset, vous êtes metteuse en scène et vous avez travaillé sur le spectacle Paysages partagés. Et vous, Iseult Beaumauer, vous travaillez à Avignon à l'association Latitude. Et je laisse la première question à Dorian.
Alors moi, Émilie, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que la nature te touche? De quelle façon tu entres en communion avec elle? Quelle sensation ça te fait? Est-ce que ça t'emmène même à méditer ou pourquoi pas même danser?
Ben là, particulièrement, le fait de travailler en extérieur, de travailler dans la nature, ça me pose des questions de mise en scène. C'est-à-dire qu'on a créé pour l'instant la pièce deux fois, parce que la pièce se recrée à chaque fois in situ avec des performeurs locaux et un paysage différent. Donc là, par exemple, travailler à Lausanne, dans un paysage très verdoyant, dans un champ, et là travailler à Avignon dans un paysage où il y a plus de cailloux, où c'est plus sec, et dans une vigne, un paysage qui est aussi beaucoup plus chargé. Ça m'a fait forcément réfléchir à ce que ça imposait comme type d'écoute, comment ça rendait une sensibilité totalement différente au texte qu'on pouvait dire, si c'était dans un paysage ou si c'était dans un autre.
Mais ça veut dire que cette pièce, elle dure dans le temps.
Oui, c'est une pièce qui va se recréer dans plusieurs pays européens. Donc là, au mois d'août, nous allons à Berlin et après, on ira en Italie, au Portugal, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe.
D'accord, merci beaucoup.
Moi, j'ai une question pour vous deux, du coup. Donc pour toi, Iselt, est-ce que tu as déjà travaillé du coup avec des artistes? Et pour toi, Émilie, est-ce que tu as déjà du coup travaillé avec des associations comme Latitude?
Alors nous, on travaille régulièrement avec des artistes assez divers. Par exemple, on travaille avec une compagnie qui fait du théâtre forum, donc c'est du théâtre participatif où on invite le public à venir essayer de changer une situation. Avec des artistes plasticiens aussi pour accompagner à la fin des projets qu'on mène, souvent les participants et participantes à réaliser une œuvre, une affiche, quelque chose qu'ils ont envie de communiquer. Donc voilà, on travaille en complémentarité très souvent avec aussi une approche sensible parce que ça nous intéresse.
Moi, dans le théâtre, dans ma manière d'écrire du théâtre, comme j'utilise pas mal la rencontre et la parole documentaire, je suis amenée régulièrement à rencontrer des gens qui peuvent être des spécialistes, en tout cas à venir les interroger sur leur parcours de vie, leur engagement. J'aime aussi beaucoup la parole militante. Je trouve que c'est une parole à incarner au théâtre très intéressante. Et là, par exemple, pour Paysages partagés, j'ai rencontré Faustine Bas-de-Fossé, qui est coprésidente d'une fédération d'ONG à Bruxelles.
Moi, j'ai une question pour toi, Ise. Est-ce que c'est possible d'être sportif et écologique? Parce que moi, je suis un sportif, du coup, forcément, je consomme beaucoup. Et quand je parle de consommation, c'est que je parle de la nourriture. Et je ne me vois pas trop réduire cette consommation. Surtout qu'en fait, la question du bio, elle n'est pas forcément accessible pour tout le monde.
Alors, sportif, j'imagine que tu parles notamment de manger des protéines. C'était ouais. Principalement ça?
Surtout, en fait, la nourriture en général. Juste consommer beaucoup, beaucoup.
Alors, la nourriture, évidemment, elle a un impact. L'alimentation, ça a un impact sur l'environnement. La viande particulièrement, et notamment les viandes rouges, pour les raisons que vous connaissez, hein, j'imagine, le méthane qui réchauffe qui augmente l'effet de serre, etc. Cela dit, il y a plein d'autres types de protéines, tout ce qui va être les légumineuses, etc. C'est des choses sur lesquelles on peut se renseigner. Et il y a des sportifs de haut niveau, vegan, je crois, en tout cas végétarien. Donc la question de la protéine, elle s'entend pour les sportifs, même si je pense que voilà, ça a questionné aussi de savoir combien de protéines on a vraiment besoin, etc. Après, être sportif, ça veut aussi dire justement être attentif à sa santé, être attentif à son environnement. Quand on fait du sport mais qu'en fait on mange des pots d'échappement et de la pollution, en fait ça, c'est pas très bon pour vos poumons. Donc je pense que ça devrait être assez, enfin c'est assez ça va un peu dans le même sens. C'est aussi faire attention à soi, à son corps, et voilà. Après, sur la consommation alimentaire et sur le bio, évidemment, le bio n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui, et c'est vraiment des projets sur lesquels il faut travailler. Et il y a des initiatives qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation, mais l'idée d'avoir une caisse commune et de faire attention aux produits qu'on achète, mais que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Voilà, il y a plein de choses qui existent d'initiatives, mais ça demande à être encore vraiment creusé et amélioré. Voilà, donc sur l'alimentation, il y a plein de travail à faire encore.
Merci beaucoup.
Émilie, j'ai une question pour toi qui peut aussi être posée à Isabelle, du coup. Est-ce que tu as pu remarquer qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui se présentaient à tes mises en scène, du coup? Ou c'est vraiment toujours un public du même âge? Et du coup, si je peux tourner la question pour toi, Isabelle, excuse-moi. Ce serait plutôt, est-ce que c'est plus facile, du coup, de parler d'écologie avec les plus jeunes ou avec les plus âgés? Voilà.
J'espère que les pièces que je peux faire, et particulièrement celle-ci, peut intéresser un public jeune. En tout cas, moi, j'ai pu remarquer, puisque j'ai fait une autre pièce qui s'appelle « Reconstitution, le procès de Bobigny », qui n'était pas forcément sur cette thématique, mais qui était aussi un dispositif où on pouvait circuler de pièce en pièce Et les pièces, on va dire, un peu dispositifs comme ça, en général, ça se passe bien avec des publics de lycéens, puisqu'il n'y a pas aussi la contrainte d'être forcément assis et de ne pas bouger pendant plusieurs heures. Je trouve que les théâtres, en tout cas, travaillent beaucoup à être en lien avec des associations ou des lycées, pour qu'il y ait un public jeune aussi qui vienne au théâtre. Et puis, j'espère que ça intéresse, quoi.
Est-ce que c'est plus facile, c'est ça, de travailler avec des jeunes ou des moins jeunes ? Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, nous, on a envie de travailler avec les jeunes, déjà parce qu'on est une association de jeunes à la base, une association étudiante, voilà, qui s'est professionnalisée, qui a vécu sa vie, mais qui est toujours restée en lien avec des jeunes. Et ça fait partie des jalons, mais on touche tous les types de publics. Voilà. Il faut aussi parler avec les vieux. Non, pardon, on dit pas vieux.
Avec plus âgés.
Les plus anciens, les plus expérimentés. Mais voilà, nous, l'idée, c'est aussi de créer des endroits de dialogue entre les générations. Donc, ça peut être intéressant aussi, voilà, des primaires, des adultes, tout type de public.
Merci beaucoup. On va tout de suite se quitter, malheureusement. Mais n'hésitez pas à rester dans le public pour continuer à nous écouter. Merci.
À la jeunesse, les micros.
Les micros.
Et maintenant, on écoute un reportage que Camélia et moi avons fait sur Paysages Partagés. Nous allons ensuite recevoir Caroline Barnot et Stéphane Kayegi. On est à Pujoux, il est 16h30, on est dans la forêt, on vient de marcher 30 minutes et on a pris une navette pour venir à Paysages Partagés. Et ça commence maintenant.
C'est hyper intéressant de voir déjà une pièce dans un cadre comme ça. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir beaucoup de spectacles dans des salles de théâtre.
Et on reste dans un même paysage, mais en même temps, on voyage énormément entre les différents dispositifs, que ce soit d'écouter des voix dans un casque ou de regarder un paysage en réalité virtuelle, etc.
À la fois, on regarde, mais qu'en fait, on est surtout mobilisé par le son. Et ça, je trouve que c'est assez... c'est hyper agréable.
Comme beaucoup de pièces qui sont des déambulations, je trouve que la logistique prend énormément de place. Et au-delà de ça, dans les créations, j'avoue que beaucoup de choses ne m'ont pas embarqué du tout. Je pense notamment aux trucs de méditation. Moi, je déteste les trucs de méditation, je déteste qu'on parle tout bas, je déteste l'ASMR. Donc j'avoue être bloqué avec un casque dans un groupe, on est en cercle et des gens nous regardent dans les yeux et on doit faire l'arbre. C'était trop pour moi.
Ce qui est très agréable, c'est le fait d'être en petit groupe. Ça, je trouve que c'est super. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la première pièce où on était complètement à la fois dans le son de la forêt et dans les sons enregistrés. C'était super.
Nous, on est un peu déçus parce qu'on pensait que ça allait être du théâtre et qu'en fait, on a fait de la VR et on nous a mis un casque, quoi. Après, bon, il fait beau et on est dehors, donc c'est cool. Ouais.
Je trouve par contre que la fin de la journée a rattrapé pour moi tout le reste. Avec le panneau, au début j'ai souri et j'ai fini complètement en larmes, j'ai été complètement transporté par le truc. Alors même ça a réveillé toutes les angoisses autour du fait que ouais, la planète est clairement va nous survivre et qu'on est en train de complètement plonger dans des crises, dans des catastrophes climatiques, etc. et entraîner plein d'espèces avec nous, quoi. Et... c'était une bonne façon de finir. J'étais presque déçu à la limite qu'on ait le morceau musical derrière. Je trouve que ça aurait fini vraiment en climax avec ça.
Il est à approximativement 22h30. On a quand même une très belle vue. Je tiens à lui dire, il y avait plusieurs lumières, on voit un peu les montagnes. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 musiciens en face de nous qui jouent de la trompette. C'est ça, la trompette, voilà. Donc c'est pour clôturer. Vous avez mis en scène Paysages Partagés. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de réaction des spectateurs qu'on entend dans le reportage ?
C'est super de les écouter, hein, comme ouais. Ça, dans cette belle édition.
Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment beau d'entendre ça. On s'attendait à celle-là et à d'autres. C'est un projet où il y a plusieurs propositions. C'est un projet qui se construit par couches au fil de la journée. Alors, toutes les possibilité de le recevoir et réactions sont accueillies.
Donc moi, j'ai une question pour vous. Je déteste la nature, vraiment. Genre, ça me pique, les insectes, le sable, tout. Genre, je supporte pas.
Tout ce qu'il y avait à voilà. Paysage partagé.
Non, pas comme ça. Mais du coup, pour les gens comme moi, vous êtes écolo, vous connaissez bien la nature et tout. Vendez-moi la nature. Qu'est-ce qui fait que je pourrais aimer la nature ?
Bon, après, on peut se protéger un peu des moustiques. Hein. Il y a quelques instruments, mais je trouve ça très, très intéressant parce qu'il y a une des pièces, qui est la pièce de Marco D'Agostini et Chiara Bersani, où on voit quelqu'un en fauteuil roulant face à un très beau paysage. Et évidemment, c'est une personne qui alors n'a pas la possibilité de s'immerger dans le paysage. Et je crois que c'est comme un peu une image pour tous nous qui sommes un peu incapables de retourner là chez les autres animaux, parce que nous sommes des animaux aussi normalement. On y était sur les arbres il y a quelques centaines, je sais pas, il y a quelques temps. Et je crois que il y a des formes de peut-être l'art peut aider. Parce qu'il y a des médias qui peuvent te faciliter l'accès à ce qui t'entoure.
Je vais commencer à
regarder. Et moi, je te dirais, essaye encore.
Encore. Allez, la prochaine fois, j'essaye, je vous dis.
Moi, j'ai un message qui s'adresse à vous deux. On ne peut pas forcément se sentir intéressé par l'écologie, parce que moi, je viens de la banlieue, à Gagny dans le 93. Il n'y a pas beaucoup de végétation et c'est quelque chose en fait qui n'a jamais changé nos vies et c'est là en fait sans être là en fait l'écologie et je me dis qu'en fait si c'est comme si en fait on continue à vivre sans en prendre connaissance et c'est pour ça je dirais que des fois pour beaucoup de personnes ils ont du mal à se sentir concernés par l'état d'urgence de la planète. Parce que les petits gestes, bah, ils ne sont pas convaincus que ça va faire de grandes choses. Je ne sais pas si vous avez peut-être un message à y répondre. C'est peut-être une question compliquée, finalement, que soulève ce message.
Non, je comprends que, évidemment, c'est un souci d'être entouré par des endroits qui sont construits en béton. Complètement, mais quand même, tout ce que tu bois, tout ce que tu manges, et comme on a appris, tu manges bien, alors ça vient quand même des ressources naturelles qui sont autour. Alors, je crois que c'est peut-être un bon motif d'aller connaître de tout proche avec ton corps, avec ton sport. Y aller et trouver quelque chose qui est beaucoup plus frais, peut-être fraîche, non ?
Peut-être une réponse de votre part ?
Je comprends aussi cette idée que c'est devenu absent de pas mal de vie, la nature, le vivant, mais en réalité c'est partout. Donc ce que propose ce projet, mais aussi plein d'autres, c'est de prêter attention à tout ce qui nous entoure et qui fait partie du vivant dont on fait partie. Et je suis sûre que tu peux en trouver partout.
Mais du coup, en fait, je me pose la question quand j'entends vos réponses. Est-ce que peut-être que l'environnement, ce n'est pas aussi un handicap dans un sens ? Parce que si une personne est restée toute sa vie entourée de bâtiments, bah, c'est moins naturel finalement de retourner à la nature. Non ? Je ne sais pas, vous en pensez quoi ?
Ouais, de toute façon, on s'en est énormément éloigné. Et puis, ce que tu dis et ce que tu dis, c'est qu'on a perdu une forme de contact et que ça demande une sorte de réentraînement si on veut se reconnecter et un effort, peut-être au début. Et après, bah, c'est un effort qui peut aussi avoir des compensations fortes.
Du coup, je continue toujours, mais ça veut dire qu'en fait, les campagnes, elles sont quand même importantes. Puisque c'est là où on est loin de la ville et on est proche de la nature.
Bah, elles sont importantes déjà dans toutes les ressources dont on a besoin, la nourriture, les fruits, les légumes, l'eau. Tout ça, ça vient d'endroits qui sont en dehors des villes, les campagnes par exemple. Donc le lien entre la ville et les campagnes, Il est super important et on est tous dans un système d'interdépendance. On a besoin de ces endroits, les villes qui sont devenues les lieux où on vit le plus et qui concentrent tout ce dont on a besoin. Mais on a aussi besoin des campagnes et l'idée de ce projet parmi d'autres, c'est de rendre visibles ces liens entre les deux que parfois on ne voit plus mais qui existent.
J'aime bien cette réponse. Et puis la campagne en plus c'est agréable, c'est silencieux et c'est calme. Bah, en tout cas merci à vous deux pour vos réponses.
Merci. On ne se quitte pas encore. Tous les jours, on a un jeu pour nos invités, c'est la bonne pioche de Tanzila.
La bonne pioche.
La bonne pioche.
À la jeunesse, les micros.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vais vous expliquer les règles. Vous tirez un mot et vous expliquez en 45 secondes à quoi vous fait penser. On commence.
Assemblée nationale.
Ah ben oui.
Alors moi j'habite en Suisse et pour continuer dans la discussion qu'on vient d'avoir là tout de suite, Assemblée nationale, je me dis, et qu'est-ce que ça serait si à l'Assemblée nationale il y avait aussi des non-humains?
Merci pour votre réponse. Et vous, monsieur?
Moi j'ai tiré ensemble. Alors ouais, c'est un joli mot pour une table où on est ensemble et on se regarde dans les yeux, où on est ensemble aussi dans cette cloître avec beaucoup de gens qui sont là au même moment qu'il y a des gens ailleurs, mais l'ensemble physique dans la réalité, super.
Merci à Stéphane Kaegi, Caroline Barnot, Émilie Rousset et Iselba Baumeier de nous avoir accordé ces interviews. Ils nous ont tous permis de pouvoir nous plonger sur le problème de l'écologie de plusieurs aspects différents, que ce soit le côté associatif ou le côté artistique. Je vous remercie et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
On est toujours en direct et en public au Cloître Saint-Louis, au 77e Festival d'Avignon. Il fait beau, il fait très chaud et on enchaîne avec une lecture. C'est à toi, Nesrine.
Merci. Bonjour Stéphane Bournard.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur, metteur en scène et comédien. Vous êtes venu présenter un projet sur Avignon qui s'appelle Continent. Vous allez nous lire un extrait de votre texte et le micro est à vous.
Merci. Donc c'est un extrait. Alors c'est vrai que Continent à la base, c'est hyper glissant là ce que je vais faire. Hein. Parce que c'est un dispositif immersif à 360 avec un dispositif sonore qu'on a inventé nous. Donc c'est, on va l'essayer alors.
Quelque chose se déplace en moi.
Noike, Noike, Topaz.
Sur un des canapés séchés au soleil, Nour raconte, d'une voix douce et précise, comment il s'est approché du bord de l'eau et comment il est parvenu à s'en éloigner. Je note, je lui montre, il y a voix haute. Quelques-uns s'approchent, disent que c'est du théâtre, alors Nour demande, est-ce que c'est du théâtre? Puis il va s'allonger dans sa chambre. Cette nuit, trois ont dormi dans la salle de prière. Chaque matin, Mohamed pavane dans la cour dans un super peignoir blanc satin. Les portes du stock ont été forcées. Quand nous faisons cinéma, Bruce Lee est populaire. Iris a été prise à partie par ceux de la chambre 5. À présent, Alpha l'accompagne quand elle fait le tour des disponibles. Iris n'a pas 20 ans. Et voici le cercle des chaises qui lui demande le dernier décompte. Avec Alpha, on pense qu'on a 280 personnes. Mais cela devient difficile de compter, parce que même ici, dans la salle du cercle des chaises, des matelas sont apparus. Je croise un petit groupe obstiné qui, depuis quelques jours, bêche un carré de bitume. Salade, patates, haricots, tomates. Je les salue, passe le portail, remonte l'avenue trouée, les façades claires, le périphérique, les pavélis sur les trottoirs, les familles, des ados à l'arrêt de bus, une trottinette qui glisse et puis là, face à moi, une grande tour de verre, Je regarde mon reflet dans sa paroi miroir. La voilà qui se fendit en trois étoiles. Une, deux, trois, qui s'étendent, se ramifient et finalement éclatent en 10 000 gouttes glacées. Et de l'autre côté, il y a le visage d'une petite fille, aux grands yeux noirs, aux deux tresses qui me regardent. Je vacille, m'assied sur le perron, les badauds, le ciel est bleu, il ne pleut pas, cela fait longtemps ce qui était annoncé, cela ne finira plus. Ne pas perdre notre humanité. Un gamin serre la main de sa mère et me regarde, je me redresse, hésite, me dirige vers mon immeuble, le digicode, les clés, la porte, le couloir, la table du salon, le cahier, le stylo, je note. Nous raconte, d'une voix douce et précise, comment il s'est approché du bord de l'eau et comment il est parvenu à s'en éloigner. Il avance dans les mots, sa grande silhouette immobile, le regard fixe sur l'assemblée réunie, 800 personnes dans la cour qui applaudissent à tout rompre. Non mais voilà, le problème c'est que je note, je m'en tiens au réel, mais quelque chose se déplace en moi et parfois l'écriture déborde, me précède, me suggère, m'oblige. 800 personnes dans la cour qui applaudissent à tout rompre. Ça aurait de la gueule quand même. Mais alors peut-être qu'il ne faut pas juste l'écrire, peut-être qu'il faut le faire pour de vrai. Je referme le cahier. Je rebouche chemin. Les pavélis, le portail, les quatre bâtiments. Là, Mohamed apparaît dans une robe bleue nuit satin, sa grande silhouette élancée, cambrée par des hauts talons. Il se campe au milieu de la cour. Il envoie un baiser aux fenêtres des quatre bâtiments. Applaudissements, ovations. Qui sommes-nous ? Nous sommes des mutants. Merci à vous.
Merci à toi. Alors, merci beaucoup pour ce texte. Pour tout le monde, on aimerait savoir où on peut venir vous voir jouer, du coup.
Donc, c'est à 22h à Villeneuve-en-Seine. C'est une salle qui n'est pas climatisée. C'est pas que drôle, c'est pas du tout un texte classique. Et voilà.
Super, mais merci beaucoup, merci bonne journée à vous. Alors maintenant, nous allons accueillir Léopoldine HH. Alors bonjour et bienvenue à vous, Léopoldine HH.
Bonjour Nesrine, ça va ?
Ça va et vous ?
Eh bien, ça va plutôt bien, oui.
Alors vous êtes actrice, chanteuse et musicienne. Hein, du coup, de base, vous venez en trio ? Ce que j'ai bien compris, mais là aujourd'hui vous êtes venue seule avec votre instrument. Quel genre de chanson vous allez nous chanter, ou enfin, le titre de la musique si c'est possible?
Alors j'ai joué à faire une chanson un peu comme Colette Mani s'amusait à faire des montages de plein d'auteurs et de faire des chansons comme ça. Mais comme je suis là pour chanter Rezvani dans 2 jours, je vais vous chanter une chanson de Rezvani, mais avant je vais digresser un peu, si ça vous embête pas.
Il n'y a pas de souci, à vous le micro.
Donc Niagara, quand même, je vais les citer, comme si c'était un poème. Des arbres se penchent, c'est plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore plus doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumettes craquées et tout part en fumée. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent, et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Katchakin, l'autodafé de la modernité, éteins ton feu sacré et les cendres gelées, enterre tes congénères à la sortie des villes, dans les souterrains de ton existence civile. Oh, oh, le feu s'éteint. Quand il pleut, je vois encore un tel décor. Sous la pluie de cendres à Avignon, plus d'arc-en-ciel dans le ciel, tout est brumeux quand il pleut. Rezvani, il est plutôt marrant dans la vie, il est comme vous, il croit pas du tout à l'écologie et tout, mais il écrit quand même des chansons ultra optimistes. Et il a écrit notamment cette chanson qui s'appelle La chanson de Louis Armstrong. et qui est une chanson en fait où il a imaginé qu'on est, je sais pas, dans on est là dans peut-être dans pas très longtemps en fait. La planète en tout cas est en train de dévier de galaxie en galaxie. Et vous savez, en 77, la NASA a envoyé un truc qui s'appelle le Voyager Golden Record, où ils ont enregistré plein de trucs dessus, et notamment ils ont mis une chanson de Louis Armstrong dessus. Ils ont mis Mélancolie Blue, et Rezvani a écrit une chanson sur cette, ce machin qui se balade de galaxie en galaxie, de cette chanson de Louis Armstrong. Et donc il parle de la planète Terre comme d'un ancien truc old school qui n'existe plus. Hein, voilà. C'était une planète, une très vieille planète nommée Terre autrefois. Parmi les comètes, cette vieille planète tournait détruite dans l'espace froid. Elle tournait muette parmi d'autres planètes selon d'obscures lois. Pourtant sur cette planète vécurent des poètes, paraît-il autrefois. Mais il y a de ça si longtemps, si longtemps, si longtemps, si longtemps, qu'il n'en reste rien aujourd'hui. Si ce n'est une chanson d'un certain Louis Armstrong échappé à l'attraction et qui dérive sans raison de galaxie en galaxie, de galaxie en galaxie, de galaxie en galaxie. De planète en planète, dans une éternelle quête, voyage cette chanson. Entre les vieilles comètes et les grandes tempêtes d'ions et de protons, de krypton et de fréons. Un petit air de trompette, comment jouer Armstrong, accompagne cette chanson. Dans les espaces célestes, où encore il reste des échos du grand Big Bang. Cela a duré si longtemps, si longtemps, si longtemps, des milliards et des milliards d'ans, sans que cette chanson d'Armstrong trouve une civilisation qui s'étonne, mais qu'est-ce donc, mais qui donc est-ce Armstrong, Louis Armstrong, Louis Armstrong, mais qui connaît Louis Armstrong? L'air de trompette, ça fait comme ça. Dernière strophe. C'était une planète, une très vieille planète, une très vieille planète nommée Terre autrefois. Parmi les comètes, cette vieille planète était belle il y a de cela, oh là là, oh là là, oh là là. Elle tournait merveille autour d'un soleil comme nulle part il n'y en a. Mais de cette planète, malgré ses poètes, les hommes n'en voulurent pas. Il y a de cela si longtemps, si longtemps, si longtemps, qu'il n'en reste rien aujourd'hui. Si ce n'est une chanson d'un certain Louis Armstrong, qui à cause de la pollution, qui à cause de la destruction, qui à cause de la confusion, qui à cause des explosions, qui à cause de la pluie de cendres à Avignon, s'évada de l'attraction pour dériver sans raison. De galaxie en galaxie, de galaxie en galaxie, de galaxie en galaxie.
J'allais dire un tonnerre d'applaudissements pour vous, mais on l'a déjà fait. Ben, merci beaucoup. Merci. Et où est-ce qu'on pourrait venir vous voir jouer, du coup?
Alors, ben, ça sera le 14 juillet dans la cour du musée Calvé à 20h. Serge Rezvani sera là, du haut de ses 95 ans. Et sinon, le 16, à la Nuit Bleue au Délirium, je chanterai des trucs. Et le 20, avec Charlie Marty, je chanterai aussi des trucs au Train Bleu. Voilà.
Bisous. Super, bon festival. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Très bien, et bonne chance pour la suite, et bonne soirée à vous.
Merci. Ok, merci à Nesrine, et merci à Léopoldine, merci, qui fait d'ailleurs très bien la trompette. Merci. Et pour ce morceau, en espérant pouvoir vous réécouter très bientôt. Tous les jours dans cette émission, on donne la parole à des associations qui luttent pour des causes qui sont importantes et qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, on appelle Cécile Duflo, ancienne ministre de l'écologie et aujourd'hui directrice de Oxfam France, une association qui a pour objectif de lutter contre les inégalités et la pauvreté en France. Elle porte également d'autres causes très importantes comme l'écologie et qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
Allô?
Oui, allô, bonjour, Cécile Duflo.
Bonjour.
Robespierre de À la jeunesse, les micros. J'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête à nous répondre?
Oui, je suis prête à vous répondre.
Alors, Cécile Duflo, l'éco-anxiété est un phénomène qui touche de plus en plus les jeunes, les plongeant parfois dans une forme de désespoir face à l'avenir. Quel message, Cécile, avez-vous pour ces jeunes?
Alors, déjà, le message que j'essaye d'avoir, c'est de dire que il y a des choses qui sont complètement fichues. Si on avait fait exploser 40 bombes atomiques à la surface de la Terre, ben, on ne sait pas supprimer la radioactivité, ce serait foutu. En revanche, les scientifiques, ceux qui ont expliqué comment le réchauffement climatique allait arriver, les conséquences, ont aussi dit, et même dans le dernier rapport du GIEC, ce qu'on pouvait faire pour lutter contre le dérèglement climatique très efficacement, le plus vite possible. Il n'y a pas de fatalité, en fait. C'est qu'on peut agir. Et donc, je pense qu'il faut transformer cette anxiété en envie d'action.
Et donc, vous pensez que les Français sont prêts à faire les efforts nécessaires pour pouvoir, chasser cette anxiété de chez les jeunes?
Alors, c'est compliqué, hein, parce qu'on voit bien que si ça avait été facile, ça aurait déjà été fait. Et si on avait commencé plus tôt, ça aurait été plus facile. Et que plus on attend, plus les efforts qu'on doit faire sont importants. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut être conscient que ce n'est pas des efforts que individuels. Même si on était tous le plus écolo possible dans le monde qui est le nôtre, en France en tout cas, on atteindrait un quart des efforts qu'il faut faire pour tenir dans la trajectoire de l'accord de Paris. Trois quarts des efforts, c'est des politiques publiques, c'est des actions collectives à mener. Donc oui, il faut qu'il y ait des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, il faut qu'il y ait un univers de contraintes qui fasse qu'on arrive à tenir ces objectifs. Donc c'est à la fois un chemin individuel, mais c'est aussi une volonté collective et des décisions de politique publique.
Moi et certains de mes collègues sommes originaires de la Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres de France. Et j'aimerais vous demander, à mon nom et au nom de mes camarades, pensez-vous qu'on puisse être à la fois pauvre et écolo?
Alors déjà, quand on est pauvre, on est souvent plus victime des conséquences du dérèglement climatique. C'est vrai à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, c'est les 50% les plus pauvres qui émettent moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre et qui vivent pourtant les dégâts de la sécheresse. C'est le cas dans la Corne de l'Afrique. Il y a une personne qui meurt de faim toutes les 28 secondes en ce moment. Et la cause principale de cette famine, c'est la sécheresse très importante depuis 5 ans. Mais c'est aussi valable en France. Ceux qui sont à côté des endroits les plus polluants, ceux qui sont dans des logements qui sont mal isolés et donc qui auront du mal à chauffer en hiver, mais qui ont aussi... qui sont aussi des fours en été, bah, ce sont en général les plus pauvres. Et paradoxalement, en proportion de leurs revenus, ils contribuent plus, notamment à la taxe carbone, par exemple, que les plus riches. Donc on voit bien qu'au cœur de ce combat, il y a à la fois un combat contre les émissions de gaz à effet de serre, un combat climatique, mais il y a aussi un combat de justice sociale. Et ça aussi, les scientifiques du GIEC l'ont dit dans leur dernier rapport.
Alors bonjour, Cécile Duflo, moi c'est Brenzy, et j'ai également une question pour vous. Alors j'ai vu sur votre site que vous venez de lancer une pétition pour, je cite, taxer les entreprises des énergies fossiles parce qu'il est grand temps que l'industrie des énergies fossiles contribue à réparer les dommages qu'elle a générés. Fin de la citation. Moi je trouve que c'est super qu'il y ait des actions de ce genre, mais pensez-vous que ce sera réellement efficace sur la durée?
Alors, est-ce que c'est notre pétition qui va changer? Ça, je ne peux pas vous dire que je suis convaincue. En revanche, je crois au pouvoir citoyen. Je crois à la capacité qu'on a quand on est très nombreux à être mobilisés de faire bouger les choses. Et depuis cette pétition, il y a eu un sommet important à Paris dans lequel la première ministre de la Barbade, c'est une petite île qui est menacée par le changement climatique, comme toutes les îles d'ailleurs, hein, avec la montée du niveau des océans, avec l'augmentation des cyclones, et qui s'est exprimé très clairement sur le fait qu'il fallait maintenant taxer les producteurs et les entreprises qui produisent des fossiles, parce que c'est là, en brûlant fossiles, qu'on émet le plus de gaz à effet de serre. Le charbon d'abord, mais évidemment aussi le pétrole. Et que donc, l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il ne faut plus aucun nouveau projet. Mais d'ici là, il faut qu'ils contribuent, et qu'ils contribuent de manière massive, pour une raison simple, c'est qu'ils dégagent en plus de la catastrophe climatique, des profits considérables. Donc c'est vraiment complètement immoral de gagner autant d'argent en mettant en danger l'habitabilité de notre planète. Donc nous, on est vraiment convaincus qu'il faut aller dans cette direction. Alors ça peut sembler aujourd'hui un peu utopique, mais il y a eu des choses utopiques avant qui ont bougé. Le fait de taxer les entreprises dans tous les pays pour lutter contre les paradis fiscaux, par exemple, bah, c'était utopique et maintenant c'est en tout cas un début de réalité. Donc là, c'est la même chose. Et il faut qu'on se mobilise pour que ça advienne et pour faire pression sur les politiques pour justement que cette décision de taxer les industries fossiles soit prise.
J'ai une dernière question pour vous, Cécile Duflot, très rapidement. Entre nous, est-ce qu'il est plus facile d'agir en tant que directrice d'Oxfam France aujourd'hui ou quand vous étiez ministre de l'écologie?
Alors, entre nous, mais juste entre nous, ça dépend sur quoi. Quand vous êtes ministre, vous avez la capacité de prendre des décisions qui changent vraiment la vie des gens. J'étais ministre du logement, on a fait voter l'encadrement des loyers, bah, on a fait baisser les loyers d'un certain nombre de personnes. Quand vous êtes à la tête d'une ONG, vous essayez de faire bouger les choses par d'autres moyens. Vous n'avez pas la capacité de faire voter des lois ou de signer des décrets. Mais on a réussi avec Oxfam à faire bouger les banques, par exemple, à leur faire, comme la Banque Postale, avoir une politique et une politique tout à fait conforme à l'accord de Paris et d'arrêter d'investir et de soutenir les entreprises qui continuent à ne pas lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, je pense qu'on est le plus efficace à l'endroit où on se sent bien, à l'endroit où on a la niaque pour agir. Et ça peut être dans des responsabilités politiques, ça peut être dans des ONG, ça peut être comme citoyen ou ça peut être aussi sur la scène du Festival d'Avignon.
Merci du temps que vous nous avez accordé, Cécile Duflot. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À la jeunesse, les micros.
Les micros, ils sont à qui?
Ils sont à qui?
On accueille maintenant Hortense Archambault, directrice de l'AMC 93 à Bobigny, et Simon Janich du collectif Le Fenu à Vapeur, une association avignonnaise. Je laisse la parole à Mariama, Brandy et Noah.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, première question, par rapport à l'émission et au sujet de l'écologie, qu'est-ce qui vous a fait réagir?
J'ai été touché par la parole de votre camarade qui disait que pour lui, l'écologie, c'était loin de lui et qu'il se sentait déconnecté de la nature et que pour lui, ça avait une peu d'existence. J'ai trouvé ça très dur et en même temps très significatif.
Ben moi, j'ai été aussi marquée par ce que vient de dire Cécile Duflot, c'est-à-dire que l'écologie, elle n'est pas envisageable sans justice sociale. Et que peut-être que si tout à coup, on se dit que c'est un monde nouveau qu'il faut penser, ça, c'est plutôt stimulant.
Et est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs qui ne sont pas là ce que vous faites dans vos structures?
Alors, ben moi, je dirige la MC 93, c'est la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, qui est située à Bobigny, dans un quartier populaire au nord de Paris. Enfin, en dehors de Paris, dans la banlieue parisienne, mais au nord, donc en Seine-Saint-Denis, et qui est un théâtre avec trois salles, qui produit des spectacles et qui est aussi une maison, en tout cas qui a envie de l'être, et qui est une maison pour le plus de gens possible, et qui essaye d'accueillir plein de personnes. Et en fait, la chose qui me touche le plus, c'est quand les gens me disent qu'à la MC 93, ils ont l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes et qu'il y a plein de gens différents qui ont aussi cette impression-là et que c'est grâce aux œuvres et aussi grâce à l'esprit qu'ensemble, toutes les personnes qui se trouvent dans cette maison construisent.
Le Fenouil à Vapeur à Avignon, c'est une association qui anime une cantine populaire et solidaire qui se tient tous les dimanches soirs. Et l'idée de ce lieu, c'est de cuisiner ensemble des produits sains, locaux, et de les partager lors d'une soirée qui est animée par un concert. Et en plus de cette cantine associative, le lieu est traversé par des collectifs et des associations qui partagent une envie de faire bouger Avignon autour des questions d'écologie, mais autour aussi d'autres questions qui concernent la ville. Et donc ces associations, elles viennent présenter des documentaires, animer des discussions sur des sujets qui intéressent les Avignonnais et les Avignonnaises.
Comment est-ce qu'on partage des outils et des espaces à votre échelle, du coup?
Je crois que la question, c'est la question de l'hospitalité, en fait. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que l'espace il soit ouvert et que finalement on essaye, parce que c'est ça qui est difficile, de pouvoir faire en sorte que chacun, chacune qui rentre dans cet espace puisse se sentir bien. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de recette, c'est un peu difficile. Je crois que c'est un fort désir et un fort désir partagé, c'est du collectif qui fait qu'à un moment donné ça existe. Et peut-être qu'il faut aussi juste être attentif à chacun et chacune. Et puis peut-être se dire tout à coup, il y a quelqu'un là qui va un peu moins bien, et lui dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer pour que vous alliez un peu mieux.
Et vous, Simon ?
Alors nous, on partage la nourriture comme quelque chose qui amène de la joie et du faire ensemble. Donc on cuisine ça, et c'est vraiment la porte d'entrée vers tout un tas de relations en fait dans le lieu. Et sur ça, on met un peu de musique et en fait on partage de la joie. Et c'est ça qui donne envie de se retrouver plus tard pour d'autres actions et de faire ensemble une fois qu'on a brisé la glace à travers un bon repas et un menu tout doux.
Tous deux, vous mettez en avant l'entraide et le partage dans vos lieux respectifs. Est-ce que ça a facilité la communication avec les personnes que vous aidez ? Est-ce qu'ils sont moins réticents à l'idée de partager leur avis ou même leurs sentiments avec vous ?
Moi, je ne sais pas si j'aide les gens, en fait. Je pense que j'ai la chance de diriger un théâtre qui est un service public, et que moi, je pense que toutes les villes ont besoin d'avoir un théâtre au cœur de leur ville, parce que à côté d'autres services publics, un théâtre, c'est un endroit aussi qui propose des espaces imaginaires, et pas que imaginaires, mais aussi des espaces imaginaires. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'on partage une œuvre et qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on a vu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on partage une œuvre, qu'on ait eu des émotions, et qu'on puisse se dire, comme dans le reportage que vous avez fait sur Paysages partagés, il y a des points de vue différents, on n'a pas réagi de la même manière aux choses. Ça veut dire qu'on est tous avec des sensibilités qui ne sont pas les mêmes, mais on est tous en capacité d'échanger et de se nourrir des émotions des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de continuer toujours d'apprendre, d'être surprise, d'être curieuse. Et c'est souvent parce que tout à coup, je découvre des gens qui ne me ressemblent pas forcément et qui me racontent des choses de ce qu'ils ont éprouvé. Et ça m'ouvre comme une sorte de nouvelle partie dans mon esprit d'émotions, de relations, de perspectives. Et voilà, donc j'ai envie de dire plus que de l'aide, c'est comment on arrive à être un endroit où on crée des rencontres, en fait.
Est-ce important pour vous de mettre en place des outils de partage ?
Ah, c'est très important, en fait, de mettre en place ces outils. En fait, c'est ce qui permet au collectif et aux gens de venir nourrir le lieu et de venir nous aider. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'association avignonnaise, en fait, je suis pas sûr qu'on aide les gens. Par contre, les gens nous aident beaucoup. Et une partie de notre ce qu'on fait, c'est d'essayer d'amener les gens à venir nous aider. Et pour ça, en fait, il faut des outils. Donc, il faut que les gens sachent à qui s'adresser, comment s'adresser. Donc, nous, on fait le pari de ce lieu et de cette cantine du dimanche soir pour un premier pas dans l'association. Et puis après, effectivement, des outils, il y en a qui sont proposés par des associations aussi qui luttent, par exemple, pour le logiciel libre. Et donc, on va utiliser, en fait, des documents partagés en ligne qui vont permettre de travailler, d'avancer sur des propositions, sur des menus, sur tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend souvent peu compte de la facilité qu'on a maintenant, en fait, à pouvoir modifier un document tous ensemble, en fait. Mais si on n'a pas ça, en fait, ça implique beaucoup de mails, beaucoup d'autres choses. Donc on remercie ces associations. Framasoft, tout ça, c'est des ressources énormes, en fait, pour toutes les associations.
On a pu lire sur votre site que l'association était en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, l'association était en danger notamment parce qu'on n'était pas dans une situation juridique confortable vis-à-vis de l'occupation du lieu. Il y a des discussions intéressantes avec la mairie. Donc, on est en train de progresser ensemble et notre horizon s'élargit. Et on est moins dans une situation d'urgence qu'on l'était au printemps. On espère trouver un dénouement positif bientôt.
Tant mieux.
Oui, tant mieux. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Mais on a un dernier petit jeu avant que vous retourniez vous asseoir dans le public. C'est la bonne pioche de Tanzila.
La bonne pioche.
La bonne pioche.
Allez, je laisse les micros.
Je vous réexplique les règles. On pioche un mot et vous dites en 45 secondes à quoi elle vous fait penser. On commence.
C'est et demain, hein, le mot. Donc, demain, I have a dream.
Moi, j'ai tiré multiculturalisme. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très présent à Avignon, notamment porté par un autre collectif qui fait de l'accueil pour les jeunes migrants. Nos soirées ne seraient pas aussi riches si on n'avait pas toutes les musiques qui nous ont été apportées par plein de gens. Et donc, on est très contents. Et quand on se retrouve autour de plats qui sont amenés d'ailleurs et qu'on ne connaissait pas, c'est un vrai, véritable bonheur.
Merci Hortense Archambault et Simon Janich de nous avoir accordé cet entretien, en espérant vous revoir très bientôt. On va maintenant passer un coup de fil à Lionel Manga, écrivain camerounais, pour savoir comment ça va là-bas. C'est à toi, Elia.
Allô.
Allô, bonsoir, c'est Elia.
Bonsoir, Elia.
Donc, Lionel Manga, vous êtes écrivain et critique d'art camerounais. Et j'ai vu que vous sensibilisiez beaucoup aux causes de l'environnement. Et je voulais savoir comment vous êtes venu à cette réflexion-là.
Disons qu'en 92, il venait de se passer le sommet de Rio, le sommet de l'Est. Ennuyé un petit peu, on va dire, dans ce pays. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire de mes dix doigts et de mes neurones surtout. Et puis, je me suis rappelé que dans ma jeunesse parisienne d'étudiant, dans les années 70, j'avais très légèrement, été séduit, conquis, ou participé même parfois, à l'émergence de cette prise de conscience environnementale. Il y avait l'histoire d'un Chris Malville en 76, d'un surrégénérateur comme ça, et puis tout ce qu'il y a eu autour du plateau de Larzac, etc. Et donc en 92, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, puisqu'il y a une FM qui démarre dans ton pays, à Yaoundé, essaie de leur parler des enjeux de l'environnement, de l'écologie, mais à partir du point de vue de l'Afrique, quoi. Voilà.
Et surtout, j'ai vu que vous n'étiez pas quelqu'un de très extrême ou très dans l'agression pour sensibiliser. Et je vois que c'est plus efficace parce que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu sur vous.
Il n'y a aucune raison, aucune raison du tout d'être agressif sur ces enjeux-là parce que même si en Occident, il y a une espèce de partition comme ça, un peu binaire, pour ou contre, oui ou non, noir et blanc, etc. Non, moi je le faisais véritablement pour, on va dire quoi, manière proactive. Dire du point de vue d'ici que l'Afrique représente probablement, en tout cas pour moi, une opportunité comme un laboratoire, tu vois, du futur pour bifurquer, changer de route et aller ailleurs chercher un autre modèle. Et d'ailleurs, à la récente Biennale de l'architecture de Venise, la commissaire Leslie Coco l'a intitulé Laboratoire du futur pour parler de l'Afrique. Et j'avais un texte là-bas. Voilà. Oui. Quand on a un mot de laboratoire, on n'est pas violent. On est juste soft and smart.
Voilà. C'est beaucoup plus efficace parce que quand on se sent agressé, on n'a pas envie d'écouter la personne qui est en face.
Mais ça montre aussi peut-être du point de vue de radicalité d'un côté et pas radicalité de l'autre, encore que quand je le dis comme ça, c'est une sorte de vue de l'esprit. Mais pour être écouté, il faut pouvoir apporter à l'autre. Parler, ce n'est pas juste faire du sens. Hein. Parler, c'est aussi de la musique. Parler, c'est aussi qu'est-ce que je fais avec les mots? Comment est-ce que les mots deviennent une musique? Comment est-ce qu'avec les mots, je m'introduis, mais tout justement, dans la tête de l'autre? Parce que moi, j'avais un souci quand j'ai fait le Clorovide pendant 4 ans, 3 fois par semaine, c'était comment est-ce que je rentre dans la tête d'auditeurs d'une société qui n'a aucune culture scientifique, mais littéralement aucune. C'est un vrai défi. Donc, quand tu pars en mode défi, est-ce que tu pars avec... avec violence? Certainement pas, Elia. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison.
Je suis désolée, je vais devoir vous couper. Vraiment, c'est une conversation super intéressante. J'aurais aimé vous voir en face. Et je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Et j'espère que vous allez bien.
Je vais très bien. Merci, Lionel.
À bientôt.
À bientôt, Elia. Au revoir. Allez, merci à tout le monde. Bravo, les jeunes. Courage.
Merci. Eh bien, merci beaucoup à Elia et à Lionel Manga qui nous a accordé cette interview depuis le Cameroun.
À la jeunesse, c'est les micros.
En direct du Festival d'Avignon.
Et pour conclure notre émission, nous retrouvons Jack et Nesrine dans le public. Vous êtes là ?
Ouais, tu m'entends ? Ouais, c'est bon.
C'est parti.
Alors, du coup, on va vous poser une question.
Une belle question ?
Ouais, une belle, très belle question. Ouais.
Qu'est-ce que vous ne partageriez pas pour rien au monde ?
J'ai bien une réponse, mais je crois que je ne vais pas vous la dire.
Trop intime ?
Ouais.
Et vous, monsieur ?
Moi, c'est je sais pas, de l'argent, je ne sais pas. Ah, voilà, je ne sais pas. Merci.
Non. Vous êtes ?
Ma femme.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et madame ?
Mon téléphone.
Téléphone ? Ok. On va aller voir les jeunes là-bas. Alors, qui veut parler là ? Monsieur.
Ma famille. Mon corps.
Ton corps ?
À manger.
À manger.
Ma vie personnelle.
Moi aussi.
Toi aussi, ta vie personnelle.
Ouais.
Et toi ?
Mes habits.
Tes habits ? Je ne partagerai pas tes habits à ton frère, ça veut dire. Ok. Toi, tu n'es pas partageur.
Ma tirelire.
Ta tirelire ? Oh, tes sous, hein. Ouais, tes sous, ils sont à toi.
Mon choix.
Ton choix ? T'as raison. Ça, c'est un... Et vous, monsieur, derrière ?
Ouais, mon appartement.
Je comprends.
Ma copine, ouais, moi aussi.
Ouais, les copines ici, ça partage pas. Hein. Bon, merci à tous d'être venus et bonne soirée.
Merci à Jacques et Nesrine d'avoir posé ces questions au public. On a reçu plusieurs réponses très profondes. Et un dernier mot pour la fin de ma collègue Mariama.
Merci à toutes. On était en direct et en public du Quatre Saint-Louis. Vous pouvez réécouter cette émission à travers toute la France, à travers des radios associatives et la Radio Campus. Demain, nous avons pour thème les premières fois. Donc, on vous invite vivement à venir partager vos opinions sur les premières fois et à nous faire partager vos premières fois. On vous dit à demain. Rendez-vous au même endroit, même heure. À demain.
À la jeunesse, c'est les micros.
The workings of my charm.